Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 9 avril 1992 à Saint-Jeudard. 180.
Pour que nos frères de l'Aréto voient mieux ce que représente ce cours de philosophie première, je reprends rapidement où nous en étions. Dans la philosophie première, c'est-à-dire la philosophie de ce qui est en tant qu'être, la philosophie dans ce cas-là, à la fois de radical et d'ultime. Il y a d'abord cette recherche de ce qu'il y a de fondamental et de premier dans ce qui est en tant qu'être. La découverte de l'ousia de la substance. Reste toujours quelque chose de premier et en acte. On ne peut pas entrer en philosophie première, découvrir ce que représente la métaphysique, sans que cette découverte de la substance soit en acte. C'est pas quelque chose de terminé. C'est toujours quelque chose auquel on revient. Et la substance, pour l'homme, c'est son âme spirituelle. La seconde grande recherche en philosophie première, c'est ce qui achève, termine ce qui est la fin de ce qui est. Il n'y a que ces deux recherches en philosophie première. Le point de vue de la cause selon la forme et la cause selon la fin. Puisque il n'y a pas de cause propre au niveau de la matière et au niveau de l'efficience. Ceci, c'est très important à bien saisir. La matière n'est pas l'être déterminé. Elle est ce qui conditionne l'être. Être en puissance. Donc il n'y a pas de cause propre de la matière en philosophie première. La matière ne structure pas l'être. Quand on a bien saisi cela, on comprend toutes les erreurs de tous les matérialismes. Et même de toutes les philosophies du possible. Du côté intellectuel, on voit comment la logique ne structure pas l'être et qu'elle ne peut pas structurer l'être, puisque la logique saisit l'universel et que l'universel et de l'ordre du possible. Il n'y a pas de cause propre du côté de l'efficience, parce que l'être, il est. Il y aura une cause ultime problème de la création. Mais Dieu n'est pas cause propre de ce qui est du côté de l'efficience. Autrement, la structure de l'être serait Dieu. Et alors c'est le panthéisme. Oui. Saisir ce qui est serait saisir Dieu. C'est la tentation permanente de la science. On voudrait découvrir Dieu comme cause propre de l'efficience. Et la tentation du Big Bang, c'est saisir la cause propre du côté de l'efficience et qu'on dit Dieu. Donc il n'y a que ces deux causalités. Alors cette année-ci, le cours de philosophie première, c'est la découverte de l'être en acte. C'est-à-dire ce qui finalise l'être, ce qui est fin de ce qui est en tant qu'être. C'est ce qu'il y a de plus difficile à saisir, auquel il faut tout le temps revenir. Parce que c'est pour notre intelligence humaine ce qui est son bien par excellence. Tant que l'intelligence humaine n'a pas saisi l'être en acte, elle reste, j'allais presque dire, avec un manque. Il y a quelque chose qui fait que l'intelligence est errante. Oui, la substance stabilise d'une certaine manière, mais ne permet pas la découverte de l'être premier. Seule la saisie de l'être en acte permettra à l'intelligence de se dépasser et de découvrir qu'il existe un être premier. C'est par le point de vue de la finalité. La substance, on demeure dans l'immanence. C'est pour cela que la découverte de l'être en acte est quelque chose de si important. C'est à partir du jugement d'existence que commence toute la métaphysique. Mais c'est vraiment dans la découverte de l'être en acte que le jugement d'existence comme point de départ s'avère comme indispensable. On passe du jugement d'existence, ceci est, à travers les expériences et dans les expériences, à quelque chose qui est saisi uniquement par l'intelligence, la fine pointe de l'intelligence, qui saisit l'être en acte, par une induction. Et comme dit Aristote, une induction synthétique et analogique. Autrement dit, je crois que profondément la saisie de l'être en acte, par cette induction, c'est toute la philosophie antérieure, toutes les parties de la philosophie antérieure, dont on se sert pour ce dernier moment, l'Himalaya métaphysique. Tandis que la substance, c'est le Mont Blanc. C'est plus rond. L'Himalaya, c'est quelque chose de très abrupt. Donc, l'intelligence se sert de tout ce qui est antérieur et essaie de découvrir à travers toutes les expériences humaines ce qui donne le sens ultime à toutes ces expériences. La saisie de l'être en acte distingue de l'être en puissance. Pas seulement comme deux états, et c'est là la difficulté. Parce que saisir deux états, parfait et imparfait, ou imparfait et parfait, je dirais que ça, on en a l'expérience. C'est du vécu. Hier, j'étais imparfait. Aujourd'hui, je suis un peu plus parfait. J'espère. Hier au soir, vous avez subi un cours de métaphysique imparfait. Maintenant, vous subissez un cours de métaphysique parfait. Parce que quand vous dormez en métaphysique, c'est imparfait. Vous comprenez bien. C'est la retombée à l'état imaginatif du rêve. La métaphysique fait beaucoup rêver. C'est sûr. Parce que c'est fatigant. Alors, on retombe. Là, il y a une saisie ultime de l'être en acte qui principe selon la fin et qui se distingue de l'être en puissance. Cette saisie étant ultime est difficile pour notre intelligence. Oui, on la saisit par moment, j'allais dire. Avec beaucoup d'acuité, c'est déjà beaucoup. Si vous l'avez saisi une fois par moment, il faut recommencer, puis au bout d'un certain temps, là on acquiert l'habitus métaphysique. Et l'habitus métaphysique, c'est l'habitus de l'intelligence qui nous permet d'acquérir la sagesse. Et donc qui nous permet d'acquérir la contemplation métaphysique, ce que nous verrons samedi. Il faut tout le temps revenir à ça. Dès qu'on saisit la distinction de l'être en acte et d'être en puissance, on peut préciser les grandes modalités de l'être en acte. Première modalité d'être en acte. La modalité de l'être en acte au niveau de la substance. L'essai. Et ceci, je crois, très important par rapport à toute une série de problèmes actuels chez certains thomistes. Maritain, le père Geiger, qui au fond considère qu'il y a chez Thomas d'Aquin une nouvelle métaphysique qui n'est pas celle d'Aristote, parce que Thomas d'Aquin insiste énormément sur le point de vue de l'essai. Ce qu'Aristote fait beaucoup moins. Aristote insiste sur l'essai. Qui pour lui est très important, l'être à l'homme. Mais sa philosophie première est nettement une philosophie première de l'être en acte. Saint Thomas, étant théologien, jamais Saint Thomas ne déclare qu'il découvre une nouvelle philosophie. Il se met à l'école d'Aristote. C'est la grande humilité de saint Thomas. Et c'est ce qu'on comprend souvent mal, la grande humilité de saint Thomas. Saint Thomas est un serviteur. Il sait ce que Dieu réclame de lui. Il est fidèle à ça. modernes cherchent tous une nouvelle philosophie. Tous. Leur philosophie. Pour avoir un nom éternel. Alors que ce qu'il y a de plus grand, c'est la recherche de la vérité. C'est pas d'avoir une nouvelle philosophie. Et donc, on se met à l'école des plus grands. Et on essaie d'entrer dans ce qu'ils ont découvert. Si saint Thomas a mis en pleine lumière l'essai, c'est parce que saint Thomas, étant théologien, cherche avant tout le comment. Il le dit expressément. Le théologien ne cherche pas le quid, ce qu'est Dieu, mais comment il existe. Et donc on est en présence du premier mode de l'être en acte. Et le premier mode de l'être en acte, c'est l'essai. C'est l'acte de la substance. C'est l'acte de ce qu'il y a de tout à fait fondamental dans les réalités. Elles existent. Et c'est vrai que pour nous, l'expérience du jugement d'existence, si j'ose dire expérience, il n'y a pas d'expérience au sens absolu. Méta-expérience. C'est à l'intérieur de l'expérience la saisie du noyau principal que seule l'intelligence saisit. Ceci est. Parce que l'être n'est pas atteint par le toucher. L'être n'est pas atteint par le regard. L'être est au-delà de la matière. Le toucher est toujours lié à la matière. Le regard est toujours lié aussi à la matière. Toutes mes expériences sont liées à la matière. Et c'est pour ça que toutes mes expériences sont liées au devenir. Mais dans toutes mes expériences, l'intelligence saisit un au-delà de la matière. L'être, ceci est. Alors, on comprend très bien cette séduction métaphysique de l'essai. Parce que c'est ce qui est ultime, donné dans l'immédiat. C'est vrai, qu'est-ce qui rencontre du jugement d'existence ? Ceci est, c'est la saisie de l'essai. Et quand je saisis que l'essai, l'être à l'homme, l'exister à l'homme, quand je saisis cet essai comme mode premier de l'être en acte, je rends compte du jugement d'existence. Je comprends que le jugement d'existence est la philosophie du vivant, présupposée à la métaphysique, on a précisé que notre intelligence, qui est ce qui structure notre esprit, notre intelligence n'est pas notre substance, n'est pas notre âme. Mon intelligence provient de mon âme spirituelle, mais n'est pas mon âme spirituelle. Mon âme spirituelle est substance. Alors que mon intelligence est une capacité d'opérer, capacité de saisir ce qui est. Ce qui est le bien de mon intelligence. Tant que mon intelligence n'a pas saisi ce qui est, mon intelligence n'a pas sa nourriture propre. Mais le régime de l'intelligence, c'est saisir ce qui est. Tant qu'elle n'a pas saisi ce qui est, mon intelligence est errante. Elle est un peu folle. Alors elle va à droite, à gauche. Aucune stabilité. C'est l'intelligence de quantité de philosophes modernes. Mais elle n'a pas saisi ce qui lui permettait d'atteindre la contemplation. Je ne peux contempler qu'en saisissant la vérité. Et la vérité m'est donnée quand je suis en conformité avec le réel existant. Et le réel existant, pour moi, le plus parfait, c'est l'homme. Je n'ai pas d'expérience plus parfaite que l'expérience de saisir le to einai anthropo, l'être à l'homme. Mais le je suis, ce qu'on verra ensuite, au sens très fort, la personne humaine. Donc toute la recherche du vrai comme seconde modalité de l'être en acte me fait comprendre ce qu'est le bien de mon intelligence, ce qu'est l'acte de mon intelligence, l'être en acte pour mon intelligence, qui est le bien de mon intelligence. La troisième modalité, c'est de rester là, c'est le bien. Et je vous avais montré comment cet ordre est important à bien saisir. Vous voyez, les trois sommets de la métaphysique, si j'ose dire. L'essai, le vrai et la vérité. Est substantiel et les deux autres sont liés à travers mon activité spirituelle. L'activité de l'intelligence, l'activité de la volonté. C'est les deux actes de l'esprit. Et ça c'est très important parce que ça me permet de comprendre que l'expérience que j'ai de l'esprit n'est pas l'expérience de l'être. Pas identifier l'expérience que j'ai de mon intelligence, l'expérience que j'ai de l'amour, le plus spirituel et le plus parfait qui soit, et l'exister substantiel. Mais c'est bien trois sommets irréductibles. Et qui cependant, tous les trois, expriment ce qu'est l'être en acte. Et immédiatement, l'être en acte est immédiatement essai. L'être en acte est nature même de la métaphysique implique au niveau de l'être en acte ces trois aspects irréductibles. Pour moi, pour ma connaissance métaphysique, jamais l'essai s'identifiera au vrai et au bien. Et cependant, l'essai est présent dans le vrai et l'essai est présent dans le bien. Mais s'il n'est pas le vrai et le bien, c'est une des découvertes les plus nettes de saint Thomas. Vous avez cela dans De Veritate, question première, article premier. Ce passage où saint Thomas montre ce qu'on a appelé les transcendentaux. On voit bien qu'on est là en face de quelque chose d'ultime. Mais De Veritate, question première, article premier, n'est pas un regard métaphysique. C'est au niveau critique, réflexion critique. C'est la raison d'être, la raison de vrai, la raison de bien, convertible avec l'être. Le problème de la convertibilité. Donc c'est un problème critique, c'est pas un problème métaphysique, au sens strict, au sens précis. Ça a été la confusion de Suarez d'en faire le grand problème métaphysique. C'est pour ça que la plupart des métaphysiques thomistes, dites thomistes, commencent par le problème des transcendentaux. Et je crois que c'est une erreur. Commence pas par la critique. Commencer par la critique, c'est s'empêcher de saisir la réalité existante. C'est se mettre une barrière qui nous arrête complètement à saisir la réalité telle qu'elle est. Il y a un regard sur le vécu antérieur. Et je saisis tout à partir du vécu. Saisir tout à partir du vécu, c'est s'enfermer dans la critique. N'existe que ce qui est vécu en moi. Mais d'un orgueil intellectuel terrible dont on ne sort pas. Parce que la réalité existait avant moi. Ayons au moins cette humilité intellectuelle de reconnaître que la réalité existe avant moi. Que ce n'est pas moi qui l'ai faite. Et ce n'est pas mon vécu qui la change. Vécu n'est vrai que lorsqu'au contraire je respecte cette réalité. Et le respect fondamental à l'égard de l'autre vient de là. Et le non-respect à l'égard de l'autre vient que je mets la critique avant la métaphysique. À ce point de vue-là, Kant est très peu respectueux de l'homme. Ça ne doit pas être drôle du tout d'être sous l'emprise de Kant, parce que c'est l'idée qui commande tout, c'est les formes a priori qui commandent tout, et si vous n'êtes pas conforme à ces formes a priori, on projette, alors il n'y a pas le respect de l'autre premier, la découverte première radicale de l'autre. Essayons d'entrer dans ce que représente le bien. C'est quelque chose d'irréductible et qui détermine l'aspect ultime de l'esprit. Si l'esprit est fait pour l'être, par l'intelligence développer ce qu'il y a en lui de meilleur. Oui. Celui qui affirme le primat du bien contre le point de vue de la recherche de la vérité tue l'esprit. Celui qui affirme la primauté du vrai en niant le point de vue de l'amour et du bien, je ne dis pas qu'il tue l'esprit, mais il mutile l'esprit et l'empêche d'atteindre une fécondité. C'est la sécheresse. Et c'est très curieux parce que c'est intéressant de voir ça à travers l'histoire de la philosophie. C'est très rare ceux qui maintiennent les deux jusqu'au bout. Thomas d'Aquin, c'est le seul. Il y a que Thomas d'Aquin qui l'a battu en théologien, en philosophe Aristote. Cherchez s'il y en a d'autres. Et la tentation permanente de l'esprit, la tentation permanente de l'homme en tant qu'esprit, c'est d'opter pour l'un ou pour l'autre et de ne pas accepter les deux qui maintiennent l'humilité. C'est très curieux. C'est de maintenir les deux qui nous maintiennent dans l'humilité, de maintenir qu'il y a là deux voies parallèles qui ont des exigences différentes. Les exigences du vrai ne sont pas les exigences du bien. Les exigences du bien ne sont pas celles du vrai. Et alors c'est difficile, c'est très difficile de maintenir les deux dans une recherche constante. Et très facilement, on va dire, oh, ce qui est important, c'est l'amour. C'est vrai, c'est capital. C'est capital d'aimer. Et d'aimer d'une façon qui soit vraie. D'un amour spirituel, d'un amour d'amitié. C'est capital dans notre vie. Mais on ne doit pas mettre le bien tellement en vedette qu'on l'oppose, pensée dialectique, vous voyez, qu'on l'oppose à la recherche du vrai. On doit comprendre que la recherche du vrai est une condition sine qua non à garder un amour spirituel. Si vous ne recherchez plus le vrai, vous retomberez très vite dans un amour imaginatif. Oui. Et l'amour imaginatif qui devient un illuminisme, c'est l'amour imaginatif. Il y a tout le temps la recherche du vrai et la recherche du bien pour nous, hein, notre condition humaine. Dans ce qu'elle a de plus radical, hein, c'est la recherche des deux, constante, constante, en dépassant cette tentation qui restreint jusqu'au bout. Cette tentation qui restreint jusqu'au bout. Le platonisme, voyez, c'est ce primat du bien sur l'être. Le platonisme, c'est ça. Et quand vous ne voyez plus que le vrai, sans voir le point de vue du bien, vous risquez toujours de tomber dans un positivisme. Les deux grandes erreurs, si vous voulez, qui sont toujours présentes. C'est pour ça que là, on saisit, au point de vue métaphysique, ce qui nous permet de comprendre cette complémentarité merveilleuse du bien et du vrai. Alors, le bien, à travers toute la philosophie, travers toute la philosophie, on saisit ce qu'est le bien. La première saisie du bien, c'est en éthique. On les saisit le bien à travers l'amour d'amitié. C'est à travers l'amour d'amitié que je saisis l'ami qui est mon bien. C'est éthique, morale, volontaire, c'est mon bien. Et ce bien qui me donne la première découverte de ma fin d'homme, aimer l'ami. Dans un amour réciproque, puisque l'ami découvre l'ami. C'est le bien est donné de cette manière extrêmement concrète et sensible, affective, à travers l'amour d'amitié, à travers le choix, qui est en même temps une intention de vie. C'est tellement riche que souvent, pour le bien, on reste là, fixé là. Et on n'atteint pas le bien métaphysique, qui est évidemment beaucoup moins attirant. Ça, c'est sûr. Parce que le bien métaphysique, c'est pas une personne.
Personne.
L'œuvre, c'est pas la personne. C'est quelque chose que j'ai réalisé et que j'ai réalisé selon mon idée. Mon idéa. Donc, selon mon idéa, j'ai fait une œuvre magnifique. C'est très beau, du reste. Un artiste fait son œuvre. C'est son bien. C'est son trésor. le bien. Il existe dans la nature. La nature est fondamentalement bonne. Mais je dis bien fondamentalement bonne. C'est-à-dire que le bien dans la nature est toujours quelque chose de caché. Il n'est pas l'apparence qui séduit. La séduction ne me fait pas l'expérience du bien naturel. Le bien naturel, il est très caché. C'est pour ça que ce n'est pas l'expérience première que j'ai des réalités naturelles. Je n'ai pas cette expérience première. Les réalités naturelles, j'ai l'expérience du point de vue sensible, qu'elles sont mues. Or, être mu n'est pas précisément la qualité du bien. Le bien attire sans être mu. Dans toute communauté, il y a les gens qui attirent et les gens qui meuvent. Ceux qui n'attirent pas se rattrapent en étant des agités qui agitent comme ça. C'est un exemple qu'on a immédiatement, n'est-ce pas, dès qu'on regarde ces choses-là. Et c'est vrai, le point de vue naturel, c'est ce qui est mu. Donc, ce n'est pas premièrement ce qui attire. Donc, ce n'est pas premièrement le bien. Dans l'ordre naturel, dès qu'il s'agit des vivants, alors le bien apparaît beaucoup plus vite, parce qu'il y a une qualité plus grande. Mais dans le point de vue de la nature, le bien, c'est la qualité. C'est la noblesse de la réalité, c'est la qualité, c'est ça ce bien. Et ce que vous cherchez dans les réalités physiques, naturelles, c'est leur qualité. C'est par leur qualité qu'elles sont originales et qu'elles sont bonnes. Oui, donc le bien n'est plus substantiel, n'est plus radical. Parce que ce qui est radical dans le monde physique, c'est la matière. Et la matière n'est pas bonne par elle-même. Au sens fort, elle demande d'être qualifiée. Être bonne. Et donc la bonté apparaît accidentelle dans l'ordre des propriétés, des choses qui changent. Et c'est vrai que le monde physique change. Vous voyez, le Pandareï, tout coule, tout change. D'Héraclite est très juste au niveau de la bonté. Le vivant, lui, a déjà une qualité plus grande au point de vue de sa bonté. Il y a quelque chose de substantiel, plus profond. Et lorsqu'il s'agit de la personne humaine, alors là, on retrouve qu'elle a en elle certaines bontés qu'on découvre progressivement, mais qui est toujours complexe. La bonté dans l'ordre de la vie et au sommet de la vie, l'homme est une bonté qui se donne dans la complexité. Vous n'êtes pas bon dans votre simplicité. Il ne faut jamais l'oublier, ça. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui cherchent la simplicité et des hommes qui cherchent la bonté. Là encore, ça fait une très grande diversité. La bonté va impliquer l'exister, l'aspect fondamental de la bonté, l'aspect substantiel de la bonté. Cette réalité existe. Pour être bon, il faut exister. Le possible n'est jamais bon. Il faut exister. Et il faut des qualités. Il faut atteindre sa fin. Il y a trois éléments de complexité pour faire que c'est des expériences du bien que je peux faire, voyez. Il y a de multiples expériences du bien. Et il y a toujours quelque chose de commun. Le bien, c'est ce qui attire. C'est ce qui est capable d'attirer. Le bien, c'est ce qui est capable de susciter un amour. C'est le propre du bien. L'homme bon, c'est pas l'homme parfait. C'est plus que l'homme parfait. Il y a des gens parfaits qui n'attirent absolument pas l'amour. Ils sont parfaits. Il ne leur manque rien. Mais s'ils ne sont pas bons, passer de la perfection à la bonté, c'est souvent très rude. Parce que la perfection, on la possède. La bonté, on ne la possède pas. On est bon pour les autres. Celui qui est bon pour lui, c'est un peu gênant. Et qui pour tous les autres n'est pas bon. Ça prouve qu'il n'est pas vraiment bon. On est toujours bon pour les autres. On attire les autres. Je crois que c'est ça qu'on découvre en premier lieu. Alors maintenant, il faut passer à la bonté de l'être. Au niveau de l'être. L'être est bon. Et c'est découvrir que dans l'être, il y a une capacité d'attirer. C'est par cette capacité d'attraction que je peux découvrir ce que c'est que la bonté. L'être bon est celui qui attire. Ce n'est pas celui qui séduit. Toute la différence entre séduction et attraction. Le bien attire et l'être bon attire. Et il attire en agissant sur l'esprit, sur la volonté. En réalisant dans la volonté un premier amour radical. Fondamental, cet amour spirituel.